20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, nous passerons un moment ce soir avec deux jeunes musiciens qui incarnent l'avenir, car ils comptent parmi les talents Adami 2023. Talent Adami, l'une des récompenses les plus importantes pour un artiste français en devenir. Camille Chopin est soprano et Léo Ispire, violoncelliste. Ils seront à notre micro tous les deux ce soir pour nous raconter leur parcours et leurs projets. Et puis nous retrouverons notre grande voyageuse du jeudi, Emmanuelle Giuliani du quotidien La Croix, qui cette semaine nous emmènera à Dortmund. Et cela le temps d'un petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Marine Alsop vient d'être nommée chef principal invité du Philadelphia Orchestra, un poste qu'elle cumulera donc avec la direction musicale du Festival de Ravinia, celle de l'Orchestre symphonique de la radio de Vienne et de l'Orchestre de la radio polonaise, ainsi que son statut de chef principal invité du Philharmonia Orchestra à Londres. Bref, à 67 ans, la chef américaine témoigne d'une activité de plus en plus trépidante. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. 1000 ans de musique arménienne, dimanche à 16h à la salle Gaveau. 1000 ans de musique arménienne, c'est le titre de ce concert organisé par la Croix Bleue des Arméniens de France. Un programme qui se présente comme un trait d'union entre le patrimoine musical arménien millénaire et la musique savante, dite classique occidentale. Avec sur scène les sœurs Cyranossian, Shushan, violoniste, et Astrig, violoncelliste, le pianiste Nathanaël Gouin, ainsi que des joueurs de canon et de doudouk, deux instruments traditionnels arméniens. Suite de notre feuilleton consacré cette semaine aux ateliers de décor de l'Opéra de Paris, nous voici maintenant dans un atelier assez unique que peu d'institutions au monde peuvent s'enorgueillir de posséder, l'atelier de sculpture que l'on visite ce soir avec son responsable Robin God.
Donc à l'atelier sculpture, en ce moment, on a Don Quichotte et puis la Vestale. Et on a un peu de Béatrice Ditenda. On essaye de travailler le plus en avance possible. Parfois un an en avance et puis parfois 6 mois, 4 mois, 5 mois, 3 mois, ça se réduit un peu. Donc les décors sont principalement réalisés pour ce qui est de la sculpture en polystyrène. Ça permet d'être léger. Ça permet de le travailler facilement. Et puis après, ensuite, pour que ce soit résistant et pérenne dans le temps, il y a une coque en résine qui vient être posée dessus par l'atelier, pareil, dédié à la résine, qui est l'atelier composite. Nous, en tant que sculpteurs, on a des blocs et des pains de polystyrène. C'est un peu comme des petits morceaux de sucre, sauf qu'ils font 2,50 m de haut par 1,20 m de large et 50 cm de profondeur. Et c'est là-dedans qu'on va travailler et qu'on va attaquer la matière. Donc on parle de taille directe. C'est une technique qui remonte très très loin, puisque même dans l'Égypte ancienne, si vous prenez le scribe accroupi, vous le regardez de pleine face et de plein profil, vous voyez bien qu'il a été taillé dans un bloc. Et du coup, nous on a cette approche aussi. On a un bloc de polystyrène, on va dessiner la silhouette sur un côté, la face sur un autre côté. Donc dans notre métier, on a une approche du dessin aussi, qui est très importante dans nos bases. Donc la forme va sortir de ces pains de polystyrène, petit à petit. Les décors qui sont faits ici sont très très impressionnants. C'est rare de trouver des maisons où on a d'aussi grandes dimensions de sculptures sur scène. Pour ma part, ça a été un demi-christ, c'est-à-dire du nombril aux plus petits orteils. Il y avait une hauteur de 11 mètres de haut. Donc c'est une sculpture là qui devient vraiment géante, immense. Et puis on a eu aussi le fameux King Kong, pour la faire Macropoulos. On arrive dans les 10 mètres de haut pour juste un portrait de gorille.
Oh,
Nathalie Dessay dans un air de Giulio Cesare de Handel. Nathalie Dessay qui avait participé à la création de cette merveilleuse production de Giulio Cesare, mise en scène par Laurent Pelli, qui avait suscité, j'imagine, beaucoup de travail aux sculpteurs de l'Opéra de Paris, puisque la production se situe dans les caves d'un musée. Et il y a donc beaucoup de statues sur scène, une production qui est reprise en ce mois de janvier à l'Opéra de Paris, très exactement du 20 janvier au 16 février au Palais Garnier.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est l'une des reconnaissances les plus importantes pour un jeune musicien qui a même valeur quelque part de label dont peuvent se revendiquer la plupart des grandes figures de la musique française d'aujourd'hui. Être talent Adami est ainsi un formidable tremplin pour un artiste en début de carrière. Alors ils sont 8 chaque année à bénéficier de cette consécration et de l'accompagnement qui va avec 4 artistes lyriques et 4 instrumentistes. 2 d'entre eux de la promotion 2023 sont avec nous ce soir, la soprano Camille Chopin et le violoncelliste Léo Ispire. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Vous participerez lundi soir au Bal Blomé à la traditionnelle soirée des talents Adami. Vous vous connaissez bien tous les 8. Il y a déjà un esprit de troupe, un esprit de famille. Je crois que vous avez partagé une résidence ensemble, Camille.
Et oui, on a fait une résidence à la ferme de Villefavard cet été où on a enregistré des vidéos professionnelles et on s'est rencontrés. Pour certains, on se connaissait déjà. Les chanteurs, on a l'habitude aussi de travailler ensemble. Mais pour nous, c'est intéressant de rencontrer des instrumentistes qu'on ne connaissait pas. Il y a une vraie ambiance de groupe. On a passé des très bons moments ensemble. On est content de se retrouver.
C'est ce que vous avez ressenti aussi, Léo ?
Absolument. Et je trouve que le cadre de la ferme Villefavard, c'est une sorte de turbo pour les rencontres. Ça accélère le processus de rencontre. Je trouve qu'on va très vite dans quelque chose de plus personnel et plus profond que ce qu'on a l'habitude dans simplement une répétition. Et ça, c'est hyper agréable.
Et qu'est-ce que cela représente pour un jeune artiste, cette reconnaissance talent Adami ?
C'est une merveilleuse reconnaissance. Déjà, c'est super en tant que jeune artiste de pouvoir être entendu dans des enregistrements de qualité et de faire partie aussi d'une famille d'artistes, puisque ce sont des artistes qui ont créé l'Adami. On se sent vraiment soutenu à la fois pendant l'expérience des talents Adami, mais aussi après dans toute notre carrière.
Oui, parce que c'est un accompagnement qui vous permet de réaliser des projets particuliers, des projets spécifiques, Léo.
Absolument, mais je trouve que l'objectif déjà d'un enregistrement, c'est quelque chose d'hyper fort, c'est important, enfin puissant, enfin je sais pas, il y a quelque chose de figé dans le temps.
C'est important pour se faire connaître aussi.
Et puis en plus, pour se faire connaître, c'est carrément génial, parce que c'est comme un tremplin.
Alors vous êtes tous les deux, Léo Ispire et Camille Chopin, en début de carrière et en même temps en formation. Léo Ispire, on vous connaît un peu, en tout cas vous étiez déjà notre invité dans le Journal du Classique l'année dernière avec Raphaël Pidou pour parler de Cello 8, cet ensemble auquel vous appartenez. Alors je vais résumer pour ceux qui ont raté l'émission l'année dernière. Vous aviez 20 ans, donc aujourd'hui, si j'ai fait le calcul, vous en avez 21. Vous avez étudié à Rouen, au CRR de Paris et au CNR. SM. Vous avez joué d'un instrument construit par un grand luthier américain qui vous a été prêté par l'association Talents et Violoncelle. Vous avez fait partie, et vous faites partie encore, je crois, de l'aventure Cello 8. Quoi de neuf depuis l'année dernière ?
Eh bien, pas mal de choses. Une nouvelle école à côté de Bruxelles, la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth.
Merveilleuse école pour les jeunes musiciens.
C'est très sympa. Et puis, un nouveau pays qui est tout aussi sympa. Et puis quoi d'autre, la rencontre aussi d'un nouvel instrument, la viole de gambe, que j'ai commencé à peu près en mars, on va dire, qui a bouleversé pas mal de choses. Et puis beaucoup de rencontres avec l'Adami, avec la nouvelle école, et puis pas mal de projets qui sont assez alléchants à venir.
La viole de gambe, ce qui signifie que vous avez envie de vous orienter vers de la musique ancienne, du répertoire baroque.
J'aimerais faire les deux.
Ouais. Mais c'est pas incompatible, certains
musiciens le font. Je pense que c'est très compatible.
Ouais,
je pense que c'est même d'aller dans ce répertoire-là, ça, on apprend tellement de le répertoire qu'on joue plus au violoncelle. Donc j'aimerais faire les deux. Voilà, maintenant je me concentre sur le violoncelle parce que c'est la priorité, on va dire. Mais j'ai toujours avec moi ma viole. Dans le train, je suis toujours hyper chargé. Ça fait un peu mal au dos, mais ça vaut la chandelle.
Et là, vous êtes venu avec le violoncelle.
Là, je suis venu avec le violoncelle.
Voilà, il me semble que c'est un étude violoncelle.
Oui.
Camille Chopin, vous avez commencé la scène très jeune. On se souvient de vous, enfin ceux qui ont pu assister à ce magnifique spectacle, dans la Mélodie du Bonheur. Vous étiez l'une des enfants. Vous aviez quel âge sur la scène du Châtelet à cette époque? Une douzaine d'années?
J'avais 12 ans, oui, à ce moment-là. Oui.
Puisque vous faisiez partie du chœur d'enfants Sotto Voce, c'est là que votre amour pour le chant est né, s'est développé, qui s'est associé à un amour pour le théâtre. Comment ensuite est venue cette vocation de chanteuse?
Alors, ça a pris un peu de temps. D'abord, j'ai découvert effectivement la scène avec Sotto Voce. Ça a été vraiment merveilleux et j'ai toujours gardé en tête l'idée de retrouver ce frisson de la scène plus tard dans ma vie professionnelle. Mais je suis passée par plusieurs choses. J'ai fait de la flûte à bec, beaucoup. Voilà, je fais beaucoup de musique de chambre au CRR de Paris et j'ai fait des études de lettres donc au lycée Fénelon. J'ai fait une classe préparatoire littéraire. Et après cette classe préparatoire littéraire et une licence, je me suis consacrée uniquement au chant. Et depuis, c'est vraiment un bonheur justement de pouvoir réunir toutes ces différentes compétences, ces connaissances que j'ai pu accumuler pendant mes études, qui se réunissent merveilleusement dans l'opéra, qui est à la fois littéraire, musical, scénique, enfin voilà, théâtral.
Et on sent que vous avez déjà un rapport très fort avec la scène. J'ai pu vous voir récemment dans le cadre d'un délicieux spectacle, L'amour à la française, donné par l'Académie de l'Opéra Comique, puisque vous faites partie de cette première Académie de l'Opéra Comique. La scène, c'est quelque chose que vous avez toujours eu en vous?
Oui, c'est un moteur très puissant. C'est quelque chose qui me porte beaucoup, le rapport avec le public, l'envie de partager à travers la musique, mais en étant un vecteur d'émotions très puissant. C'est vrai qu'avec le chant, on est notre corps et il n'y a pas de médiateur. On est vraiment le centre de plein d'énergie, donc c'est très intéressant. Et à l'Académie de l'Opéra Comique, justement, on travaille beaucoup le parler chanté, le rapport entre le jeu et la musique.
Alors, on va vous écouter chanter Rossini. Rossini, c'est un compositeur avec lequel vous avez des affinités particulières, avec lequel on peut jouer avec la fantaisie, avec le corps.
Oui, Rossini, dans la musique de Rossini, il y a beaucoup d'humour. On sent qu'il va utiliser toutes les possibilités de l'instrument pour aller parfois dans le très grave de la voix, l'aigu, les vocalises. C'est très festif, c'est très joyeux comme musique, donc je m'y retrouve bien.
Oh!
Un air du Cantori de Rossini chanté par Camille Chopin avec Josquin Hautal au piano. Camille Chopin, talent Adami 2023, qui est notre invité ce soir sur Radio Classique avec le violoncelliste Léo Ispire. Vous serez tous les deux lundi soir au Bal Blomé avec vos autres partenaires des talents Adami. Qu'allez-vous jouer, Léo ?
On va jouer avec Tom Carré et Sarah Jégou le Pantoum du Trio de Ravel, donc le deuxième mouvement. Et puis, avec Tom Carré, toujours, on va jouer les trois pièces de Nadia Boulanger.
Ah, c'est beau, ça. Très belle musique.
C'est sublime.
Et vous, Camille, le programme de lundi soir ?
Avec Marion Vergès-Pascal, mezzo, on va chanter un très beau duo de Massenet dans Don César de Bazan, qui est un opéra assez peu connu de Massenet. Un duo qu'on chante aussi à l'Opéra Comique, puisqu'on est ensemble à l'Académie. Et je chanterai l'air du Cours La Reine de Manon. De Massenet.
Ah, c'est magnifique. Comment vivez-vous tous les deux cette période particulière ? Vous êtes jeune, vous êtes en début de carrière, vous avez encore un pied dans les études, vous à la chapelle Reine-Élisabeth, Camille à l'Académie de l'Opéra Comique, vous êtes encore en train d'apprendre quelque part, mais vous avez déjà une carrière qui commence. Comment vivez-vous cette période de transition, Léo ?
Moi, j'aime beaucoup ce moment, enfin, parce que tout est très nouveau, tout se dessine un peu, pas trop. Ce qui fait que je sais pas, mais j'ai le sentiment, en tout cas, que ça va peut-être dans une direction qui me plaît. Et j'aime bien le fait d'être entre deux, d'avoir toujours des cours pour vraiment avoir quelque chose de, on va dire, très sain, enfin, quelque chose où, une direction assez, assez structurée, on va dire. Et puis aussi des moments où j'en ai beaucoup moins. Et mes cours, ça va être mes répétitions de musique de chambre. Et où là, juste, c'est open bar et c'est juste des centaines d'idées qui se déversent et j'aime beaucoup cette combinaison-là.
Oui, c'est une chance de pouvoir être accompagné encore dans ce moment qui est très excitant, où il y a plein de nouvelles choses qui se dessinent, mais on garde quand même un pied dans une structure, on se sent soutenu et on a quand même un endroit où référent où on peut encore apprendre, même si on apprend toute sa vie de musicien. C'est vrai que c'est un moment très particulier, très excitant parce qu'on sent que tout est à construire et qu'il y a plein de beaux projets qui nous attendent encore.
Et puis on apprend bien entendu au contact des autres, des partenaires de musique de chambre ou de différents ensembles. Cette notion de musique de chambre, cette notion de collectif, elle est très importante pour vous. Alors Léo, il y a entre autres Cello 8. Camille, vous faites partie d'un quatuor vocal à Aesthésis. Donc chanter, jouer avec les autres, c'est aussi essentiel pour évoluer, pour apprendre.
Oui, c'est très important. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai fait justement beaucoup de chœurs dans ma formation et puis ensuite, notamment avec Pygmalion. Et c'est une expérience qui est très formatrice parce qu'on apprend beaucoup des autres et on apprend aussi parfois à se mettre au service d'un son commun, ce qui, à mon avis, apporte une palette de couleurs beaucoup plus large aussi quand on est soliste. Donc, c'est deux choses très différentes mais très complémentaires.
Oui, je suis bien d'accord. Je trouve que c'est aussi important d'avoir des moments où on laisse mûrir tout ça. Donc, pour là, être seul, c'est important, je pense, pour avoir ces moments où ça mature un peu dans son coin. Et puis, des moments où, en effet, d'échange, et là, c'est hyper, hyper enrichissant.
Alors, cette année 2024 qui commence, elle commence pour vous musicalement au Bal Blomé, lundi soir. Et ensuite, quels sont vos projets à venir pour cette année 2024, voire au-delà, Léo ?
Eh ben, on va retourner un peu avec Cello 8. On va aller à Nantes aux folles journées, et les folles journées en région aussi, fin janvier, début février. Et puis, en fin d'année prochaine, je vais enregistrer un album avec mon frère, Luca Ispire, qui est violoniste. On va enregistrer La Muse et le Poète de Camille Saint-Saëns. Ouais. Et on a très hâte.
Est-ce que vous avez des perspectives de concours, par exemple ?
Certainement. Ouais. Je travaille en ce moment des enregistrements, peut-être pour préparer le concours BAC à Leipzig, avec un répertoire hyper beau au sein du concours, donc c'est pour ça que ça me plaît de le faire. On verra dans les années à venir. Après, c'est aussi, ça se construit sur des années, des grands, grands concours, bien comme sûr. La Reine Elisabeth, on verra.
Bah oui, il faut.
Mais j'y pense.
Vous êtes tout jeune, hein, vous avez le temps.
Ça va.
Et vous, Camille, cette année 2024, de beaux projets aussi en perspective ?
Oui, c'est une année assez intense. Là, je vais chanter bientôt à Montpellier dans la Messe en Ut de Mozart, dirigée par Marc Horowitz, fin janvier. Et puis ensuite, je serai dans Pulcinella, à l'Opéra Comique, direction Louis Langrée. Et puis en fin d'année, cet été, je chanterai Juliette dans Roméo et Juliette de Gounod, avec le Lab Opéra Occitanie Méditerranée.
Voilà, et puis je crois que même au-delà de l'année 2024, des belles perspectives
sur de
grandes scènes internationales.
Voilà, et puis d'autres concerts avec mon quatuor aussi également.
À Esthésis. Mmh. Merci infiniment Camille Chopin et Léo Espire. On va se quitter avec vous, Léo Espire, avec une page de Wagner, peu connue de Wagner, que vous avez enregistré. Un petit mot sur cette pièce.
Elle est sublime, je crois.
Une romance, oui.
C'est une romance qui a été arrangée par David Popper, qui est notre grand-père pour tous les violoncistes, parce qu'on doit travailler les études de Popper pour la technique. Mais voilà, il a aussi fait des choses. Bon, les études peuvent être très belles, ceci dit, mais il a arrangé cette pièce de Wagner que je trouve absolument magnifique.
Voilà, et que vous interprétez avec le pianiste Josquin Hotal. Merci beaucoup, Camille Chopin et Léo Espire. Rendez-vous lundi soir au Bal Blomé et plus tard sur d'autres scènes en France et à l'étranger. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Une romance arrangée pour violoncelle et piano de Richard Wagner par le violoncelliste Léo Espire et le pianiste Josquin Hotal.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Direction Dortmund pour commencer ce premier voyage de l'année 2024 avec
Exactement.
Vous.
Exactement. On ne va pas très loin, on va en Allemagne, mais on va quand même être très dépaysé. Et vous ne serez pas étonné, chère Laure, si je vous dis que le Palazzetto Brusan de Venise participe de la redécouverte d'un opéra méconnu. Un opéra qui plus est d'une compositrice qui le fut elle-même longtemps, Augusta Holmès, avant qu'on la remette à l'honneur parmi d'autres musiciennes. Elle le mérite tout particulièrement. particulièrement. Alors après la sérénade de Sophie Gale donnée à l'Opéra d'Avignon, puis le Fausto de Louise Bertin sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, un très très beau livre disque vient d'ailleurs de sortir, voici donc La Montagne Noire d'Augusta Holmès. Augusta Holmès naît en 1847 et décédée en 1903. Et donc cet opéra est proposé au public de la ville allemande de Dortmund, au Theater Dortmund, à partir de ce 13 janvier. Coutumière des vastes formes, en particulier de cantates et de poèmes symphoniques, Augusta Holmès apporta aussi sa pierre à l'édifice imposant du grand opéra à la française en écrivant 4 ouvrages pour la scène lyrique, Astarté, Lancelot du Lac et Héros et Léandre, qui sont restés inachevés, les deux derniers, et puis cette Montagne Noire. Alors plus de 10 ans séparent sa composition, ainsi que l'écriture du livret de la main d'Augusta Holmès elle-même, en 1884, donc la composition et sa création à l'Opéra de Paris.
Alors Emmanuel, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'intrigue de cette Montagne Noire ?
Alors, le lieu où se déroule l'histoire est le Monténégro, un pays choisi non pour des motifs d'exactitude géopolitique, on est à l'opéra, mais plutôt pour colorer l'action, les personnages et la musique d'une forme d'exotisme balkanique tout à fait en vogue à cette époque. On y rencontre une femme, la belle étrangère Yamina, qui fascine 2 amis, Mirko et Aslar, et met ainsi en péril cette belle amie. Cette fraternité. Cela nous rappelle notamment, par exemple, l'argument des pêcheurs de perles de Bizet, construit sur le même type d'intrigue. Alors, si le rôle de Yamina possède un large ambitus vocal, à la fois mezzo et soprano, le duo des amis, devenus des rivaux, répond à l'habituel contraste entre la tessiture du ténor et celle du baryton. La musique d'Augusta Holmès se caractérise par une très grande urgence dramatique, un sens donc de l'orchestre et des grandes formes, on l'a dit, une grande intensité aussi qui reflète ce tumulte des passions déclenchée par l'héroïne. Et pour rendre justice à cette œuvre qui sera donc une totale découverte pour le public, c'est la chanteuse Aude Extremo, que nous connaissons et apprécions, qui incarnera Yamina aux côtés du Mirko de Sergei Radchenko et du Aslar de Mandla Mendebele. Alors, pour la direction orchestrale, c'est Motonori Kobayashi qui est donc dans la fosse, et la mise en scène est signée Emily Hale. Cette nouvelle collaboration entre le Palazzetto Brusan et l'Opéra de Dortmund laisse, on peut l'espérer, augurer de reprises à venir de cette production, qui vraiment est une première, sur d'autres scènes, et pourquoi pas en France, on l'espère en tous les cas, et elle nous donne aussi l'occasion de rappeler le très agréable, très documenté et très passionnant ouvrage biographique de la compositrice, donc Augusta Holmès, par Hélène Cao, où vraiment on découvrait la vie, l'œuvre et le destin tout à fait passionnant de cette nouvelle Orphée. C'était le sous-titre du livre paru l'an dernier chez Actes Sud. Et on se sépare avec une pièce d'Augusta Holmès que vous avez choisie tout spécialement, Laure, parce que vous l'aimez beaucoup.
Petit extrait de La Nuit, l'amour d'Augusta Holmès par l'Orchestre National de Metz et David Ryland. Augusta Holmès, dont l'opéra La Montagne Noire sera créé ces prochains jours à Dortmund, où vous nous avez emmené, Manuel. Merci pour ce voyage. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine avec joie.
Merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Raphaël Pidou et Jean-Philippe Échard pour parler de ce concours international de lutherie qui se tient ces prochains jours à la Philharmonie de Paris. Et tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.